j'ai choisi un titre un petit peu dans toutes les langues, qui n'a pas été retenu par l'INP d'ailleurs, parce qu'ils ont bon goût. Mais moi, je fais des choses un petit peu dans tous les sens, très souvent dans les monuments. Donc j'ai proposé ce titre White Box versus Monument. On a vu avec Yves une situation particulière qui est celle effectivement d'un monument historique, mais qui est aussi un musée de France. Le musée Balzac est un musée de France. Donc on a des collections de départ et puis on fait des choses très différentes. Beaucoup de nos musées en France sont des monuments historiques, donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et on voit que les monuments historiques qui ne sont pas musées ont commencé de plus en plus depuis fort longtemps, hein, depuis 50 ans, ont pris le pli des musées et font de plus en plus d'expositions temporaires. Alors, le problème est de savoir évidemment ce qu'on expose dans un monument historique, puisque quand vous êtes un musée, vous avez quand même en général comme objectif principal la mise en valeur de vos collections. Et cela sert à renouveler vos publics. Dans un monument historique, on a peu ou pas de collections. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on expose dans ce type d'établissement? Donc vous voyez fleurir des expositions de types très différents, des expositions, la plupart au commencement, étaient liées à l'histoire du lieu. Montrant, expliquant le peu de collections qui étaient présentes ou faisant venir des collections en lien avec l'histoire du lieu, dans un esprit pas forcément beaux-arts, qui relevait plus du centre d'interprétation souvent. On a vu fleurir dans certains monuments beaucoup d'expositions, de panneaux, de choses plus ou moins réussies, aidant à la compréhension des lieux. Ensuite, on a exposé des artistes liés à ces lieux. Alors, la question étant évidemment le type de lien que peut avoir l'artiste avec le lieu, lien historique parfois, je pense évidemment dans les maisons d'écrivains dont on parle beaucoup ce matin, vous pouvez avoir évidemment des éditions anciennes, l'histoire liée à l'écrivain à travers des publications ou des œuvres, les restaurations successives par exemple des expositions de dessins d'architectes sur, je pense à Chinon qui a quelques collections de magnifiques dessins 19e de différents élèves de l'école des Beaux-Arts qui peuvent être exposés et alimentent la connaissance du lieu. Et puis, ces monuments sont de plus en plus utilisés pour des expositions d'art contemporain. Et pour moi je pense que c'est très important, ces monuments historiques doivent rester des lieux d'inspiration. C'est le cas chez Ronsard, où Ronsard est encore lu, étudié et connu, mais on peut chez Ronsard s'intéresser à la poésie contemporaine et nous faisons venir régulièrement des poètes contemporains pour donner d'autres visions autour de l'œuvre de Ronsard. Cependant, ces artistes très divers que l'on fait venir n'ont parfois pas de lien très fort avec le lieu. Et si vous voulez, dans beaucoup de collectivités que j'ai pu connaître, sans critique excessive, on va dire que le recours à l'art contemporain, c'est parfois la tarte à la crème quand on n'a plus rien à dire et quand on cherche un sujet rapide à exposer. Et c'est vrai qu'on se trouve parfois confrontés à des demandes qui n'ont pas grand intérêt parce qu'elles sont plaquées dans le monument et n'ont pas de lien organique avec lui. Et je crois que c'est ça l'intérêt et ce qui est important dans une exposition en monument historique, c'est qu'il y ait création d'un lien très fort entre le lieu et l'artiste exposé. Bon, je vous passe les demandes d'élus, d'expositions, de collectifs d'artistes locaux qui, évidemment, se disent qu'un monument historique, on est en Touraine, hein, donc on est dans une région touristique, où on a besoin d'un certain rythme d'exposition. Hein, ça aussi, soyons très pragmatiques, c'est quand même une demande très forte. On a des demandes tous les jours d'artistes fort sympathiques, mais pas forcément d'une qualité extraordinaire, plus ou moins soutenus politiquement, soyons clairs, et qui viennent là parce que vous avez 300 000 visiteurs par an. Évidemment, ça aide. Un exemple de raté que j'assume, parce qu'assumer ses ratés, c'est réussir, on va dire ça. C'est une exposition d'un artiste que vous connaissez peut-être, que vous connaissez certainement, qui est Titouan Lamazou, à qui on a proposé de travailler à la Cité Royale de Loche, et qui, vous connaissez ses portraits de femmes, ses dessins, peut-être un peu moins son œuvre photographique sur lequel il essaye de mettre l'accent plus en ce moment. Donc l'entourage de Titouan Lamazou m'a demandé combien on avait de visiteurs par an, c'était leur seule préoccupation. Lui a essayé vraiment de faire quelque chose d'original, il a à notre demande créé des œuvres qui sont des portraits historico-contemporains de Jeanne d'Arc, d'Anne de Bretagne et d'Agnès Sorel, qui sont les trois personnages féminins liés au logis royal de Loche. Mais très franchement, ce n'est pas là qu'il est le meilleur. Et ses œuvres étaient un petit peu ratées. Mais vous voyez, pour nous, il y avait quand même un souci d'avoir un lien fort entre l'artiste qui ne vienne pas juste réexposer ses portraits de femmes qu'il a quand même exposés à peu près partout en France. Et au moins, il y a eu un essai sincère de la part de l'artiste de faire quelque chose d'un petit peu original. Il compte continuer dans cette veine, d'ailleurs, mais je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'il fait de mieux. Donc, à quoi tient le succès d'une exposition au monument historique ? Je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment le lien entre l'artiste et le lieu. Alors, j'en viens à Ernest Pignon-Ernest. On a un artiste totalement différent de Pierre Alechinski. On travaillait sur ces deux expositions quasiment en même temps, d'ailleurs. On a quelqu'un de très présent. Alors, comme l'a dit Yves, Alechinski, c'était « je viens à la fin, si ça ne me plaît pas, je remballe les œuvres la veille de l'inauguration ». On avait un petit peu peur. Pignon, ça n'est pas du tout la même démarche. Il est venu tout le temps pendant la préparation, ce qui est très agréable, très prenant aussi, parce que chaque millimètre est voulu par le maître. Et c'est vrai que la discussion est parfois âpre. Mais on est arrivé du coup à un résultat intéressant, puisque nous étions face à plusieurs écueils. D'abord, cette exposition Extase a été beaucoup, là aussi, beaucoup vue et exposée, puisqu'il a exposé ces grandes figures de femmes extasiées. Je ne sais pas si les textes circulent là dans le public, dès 2008. Donc ça date quand même un petit peu à Avignon, où il y avait un lien fort avec les œuvres du musée et vraiment des parallèles avec l'architecture qui n'existaient pas dans notre lieu, je vais y revenir. D'autre part, il n'y avait pas de lien vraiment entre cette architecture, on va dire, c'est la tombe de Ronsard ici, entre cette architecture, pour le dire vite, majoritairement romane du prieuré Saint-Côme et les thématiques et le trait d'Ernest Pignon-Ernest. Vous avez ici le bâtiment d'accueil, ici le logis du prieur, ici les restes de l'église. C'est une photo, je vous rassure quand même, elle est prise pendant les fouilles archéologiques. Je vous en dirai un mot. Donc l'église ici avec le chœur ici. Et puis le réfectoire ici, qui est donc la salle d'exposition temporaire, je vais y revenir, l'hospitalier en ruine, et les jardins. Enfin, à l'époque, il n'y avait plus beaucoup de jardins pendant les fouilles archéo. Ici, donc, le réfectoire, je vous ai fait quelques vues romantiques, la neige et tout ça, parce que c'est quand même... voilà. Ici, un état post-fouille, puisque... on a détruit le site du prieuré, est actuellement en pleine mutation. Nous avons détruit les beaux jardins de roses. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de tourangelles assez âgées qui m'en veulent personnellement, puisque ce jardin de roses magnifique, très très historique, hein, il y avait des roses Sheila, des roses Dalida, des roses Aznavour, enfin, il y avait des choses merveilleuses. Ces jardins ont été complètement détruits par mes soins attentionnés. Nous avons fait plus d'une année de fouilles archéologiques pour essayer de redonner sa cohérence à ce site qui n'était plus du tout lisible. Vous passiez au milieu du transept de l'église sans même vous en rendre compte. L'idée n'est pas de faire un jardin archéologique, ce sera un jardin contemporain. Il y aura des roses quand même, parce que c'est la question qu'on pose toutes les semaines, mais plutôt des rosiers moins remontants, moins d'engrais, et puis des rosiers qu'aurait pu voir Ronsard, qui énumère des centaines de plantes et de fleurs dans son œuvre, donc il n'y aura pas que des roses. Voilà, ça va. C'est un site actuellement en pleine mutation. Bref, excusez-moi, c'est une petite digression. Ici, le cloître, les ruines de l'église, et puis le réfectoire, qui est donc la salle d'exposition. Une mauvaise photo de Ronsard. Donc cette salle présentait de nombreuses difficultés. C'est donc un grand réfectoire des chanoines avec, je vais le montrer là aussi avec la souris, mais vous l'avez toujours tout de suite repéré, cette étrangeté ici qui est la chaire du lecteur, qui est un endroit très orné. Est-ce que j'ai une photo après? Oui, très mauvaise photo, je suis désolée. C'est ici la chaire du lecteur. Le reste de la salle est en appareil, en grand appareil, comme vous le voyez ici, de tuffeaux de la région, et d'une très grande sobriété. Donc il y a un grand contraste avec la chapelle Saint-Charles, par exemple, d'Avignon, où avaient été exposées les extases, et où il y avait vraiment un jeu de réponse entre les voûtes, l'architecture et les œuvres d'Ernest Pignon. De plus, il y avait une petite chose un petit peu étrange, que sont ces vitraux. Là aussi, je ne veux pas être trop longue, mais ce sont des vitraux, enfin, à proprement parler, ce ne sont pas des vitraux, les spécialistes auront tout de suite vu, ce sont des verres décorés, oui. C'est du pare-brise, en fait. Enfin, bon, on n'est pas censé le dire comme ça. C'est breveté par Saint-Gobain, donc on ne sait même pas comment c'est fait. Ce sont les premiers et les derniers vitraux de Zaouki, qui est décédé l'année dernière. Et c'est la première fois qu'il se confrontait à ce type de travail. Zaouki a beaucoup travaillé sur les différents supports, beaucoup de céramique, etc. Mais il a fait pour nous ce qui était quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, vous avez une vue d'ailleurs du montage de l'expo Zaouki. Donc, nous venions de faire, moins de 2 ans auparavant, ces vitraux de Zaouki, qu'il était difficile de faire cohabiter avec les extasiés d'Ernest Pignon Ernest. Dernier handicap, et non des moindres, on est tous des polyhandicapés, hein, de toute façon, en monument historique encore plus qu'ailleurs, je pense, les conditions de conservation. Il s'agit d'une salle dans laquelle nous faisons régulièrement des concerts. Le Conseil général de l'Indre-et-Loire a eu une politique active en matière de musique ancienne, notamment. Il faut, pour les concerts d'hiver, il faut prévoir un duvet, puisque nous avons un joli chauffage à air pulsé avec un chouette vrombissement. Et du coup, et puis ce qui est très très bon pour la conservation, j'espère que vous le savez tous, donc on met le chauffage à fond avant le concert. Et on fait des coupures pendant le concert parce que les gens se frigorifient progressivement. Donc on le remet aux entractes à fond et puis on éteint. Et pour les instruments anciens, c'est vraiment merveilleux en termes d'harmonie. Mais enfin bon, on a réussi à faire 20 ans de concert comme ça tout de même. Et pour les œuvres, c'est pareil. Donc ce chauffage à air pulsé, pas de sas à l'entrée. Donc vous avez la lumière qui rentre par la double porte directement. Et il faut trouver des solutions à tout ça. Donc les solutions, elles viennent d'un essai, d'un équilibre, et comme tout équilibre, il est toujours incertain, entre l'identité du lieu et ce qu'en fait l'artiste et ce qu'on veut montrer de l'artiste. Alors pour les questions de conservation, vous savez que les questions de conservation, je ne sais pas si je vais me faire taper sur les doigts par certains, certaines. C'est quand même beaucoup des questions de bon sens et puis un petit peu de bricolage aussi. Alors, première chose, l'exposition, c'était du 6 juillet au 6 octobre. Mais pourquoi donc ? Eh bien, parce que c'est l'été, donc on ne met pas de chauffage. Ben oui, c'est pas très brillant comme explication, mais on croise les doigts pour que ce ne soit pas un été absolument horrible en termes de climat, ça n'était pas le cas. Et puis, on prévient l'artiste que ses œuvres, malgré tout, vont subir quelques changements climatiques. Donc, on accepte de faire ça l'été dans ce lieu dans lequel il ne faut vraiment pas utiliser le chauffage. Début octobre, on était limite, mais on a eu un très bel automne cette année-là. On a également créé, je vais commencer à vous montrer des... Je vous laisse lire quand même, mais je vais commencer à vous montrer des images du montage. On a créé un sas d'entrée. Alors là aussi, Yves l'a gentiment mentionné, c'est vrai que on a la chance d'être dans un conseil général, donc il y a quelques moyens techniques. Pardon, là ce sont des dessins, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est pas le bon ordre, excusez-moi, zut. Bon, c'est pas grave, je vais pas m'accrocher là-dessus. On a créé un sas d'entrée qui permettait d'une part de gérer complètement la lumière et d'autre part de mettre en condition le visiteur pour sa visite. Pour ce qui concerne les vitraux de Zaouki, donc qui sont des baies en hauteur qui laissent évidemment passer la lumière comme vous l'avez vu sur les photos, après moult discussions, on a choisi de les occulter à l'intérieur. Donc ça n'était plus visible, l'œuvre de Zaouki n'était plus du tout visible à l'intérieur du réfectoire. Et en revanche, on a mis un système de lumière qui permettait, mais je n'en ai pas de photo, je suis désolée, de les voir à l'extérieur. Alors honnêtement, je n'en ai pas de photo, peut-être parce que ça n'était qu'à moitié une réussite. C'était, si vous voulez, là encore un compromis, une demande des élus de ne pas masquer ces vitraux qui venaient d'être mis en place, mais ça ne leur rendait pas justice, parce que la beauté quand même de ces verres, c'est quand même la transparence, et c'est vrai qu'une lumière artificielle derrière les nuisait quand même vraiment à la beauté de la chose, mais bon, ce sont des choses qu'on accepte, qu'on peut accepter temporairement, de même que mettre des cloisons dans des pièces de monuments historiques. Donc en fermant les baies vitrées et en faisant le sas d'entrée, on a rajouté là-dessus un système de rideaux, tout simplement. On avait une lumière complètement contrôlée puisque vous arriviez dans le noir complet. C'était le noir complet. Alors ça s'accompagne. Hein. Il y avait toujours quelqu'un à l'entrée de la salle puisqu'il est difficile de... ça peut être surprenant pour le public, donc on avait une médiation tout le temps auprès des visiteurs qui rentraient dans la salle et qui étaient surpris de se retrouver dans le noir complet. Donc l'exposition était divisée en deux parties, avec ce noir qui vous surprenait en arrivant et ces dessins originaux d'Ernest Pignon-Arnès, choisis donc avec l'artiste. Je suis désolée, la qualité des photos n'est pas extraordinaire. Et donc, qui étaient éclairés individuellement, alors pour le coup, avec toutes les normes requises, puisque nous avions réussi à faire le noir complet dans la salle. Et puis, la deuxième partie de l'exposition se trouvait autour de la chaire du lecteur que vous apercevez ici. Et nous avons, avec Ernest, qui a vraiment été très présent, très actif, et qui a décidé et la scénographie et qui a joué avec elle, nous avons décidé de faire un jeu de rideaux. Rideaux rouges, rideaux noirs, tentures sur le plafond et entourant les œuvres. Puisque l'idée était de faire, comme à Avignon, comme dans les autres présentations d'Extase, toujours ce miroir d'eau au sol. Et donc évidemment, si dans un miroir d'eau, vous reflétez un plafond plat des années 1950 avec une belle série de spots de spectacles, ça n'est pas forcément très, très heureux. Et donc on a... complètement, ça fait partie de l'œuvre présentée à Saint-Côme, et c'est une des originalités de l'exposition à Saint-Côme, c'est qu'Ernest a créé ces tentures. C'est lui qui les a disposées, c'est lui qui les a fait jouer en réponse à ces grandes figures de mystique. Soit dit en passant sur cette photo, vous voyez quelque chose qui, bien sûr, n'existe pas. Je n'irai si vous le racontez. Nous avons loué les services d'une nacelle ensuite électrique, puisque une échelle à cette hauteur, une échelle simple, c'est bien sûr interdit par toutes les normes de montage d'exposition. Donc vous voyez ici le montage, avec c'est vraiment un montage comme on peut le faire au théâtre, hein. En termes d'organisation, ce sont des hommes de théâtre qui nous ont aidés dans ce montage. D'abord Jean-Christophe Maillot, qui est le concepteur des lumières et qui est venu juste conseiller Ernest sur le montage. C'est le travail pour les ballets de Monaco. André Siegel, qui est chef décorateur et qui travaille à Colmar, au théâtre de Colmar, et qui est vraiment l'assistant d'Ernest Pignon-Ernest. L'équipe du prieuré, qui, comme à Saché, n'est pas nombreuse, mais volontaire, les techniciens du conseil général. Et puis, nous travaillons très souvent sur ces questions de lumière qui sont toujours délicates. Je me tourne vers Anouk quand c'est une de nos discussions régulières. Ces questions de lumière qui sont absolument primordiales, surtout quand vous avez quelque chose de très théâtralisé comme ça, parce que c'est vraiment de la théâtralisation d'une œuvre. Nous prenons, nous, des gens du spectacle vivant, et notamment une personne qui s'appelle Mohamed Katabi, qui est habitué à faire du spectacle, avec un petit contrat guzo, pour ceux qui connaissent, ça passe très très bien auprès des instances départementales. Donc le choix a été ces tentures, et puis la mise en valeur, vraiment la scénographie... Non, la mise en valeur... Je ne vais pas me lancer dans un néologisme douteux. Vous ne voyez toujours pas l'échelle. La chaire du lecteur. C'est un petit film qui a été fait par le Conseil général et qui vous montrera quelques étapes du montage. C'est très court, hein, c'est une minute et demie. Marquez, c'est pas mal. Dans le film réel, c'est en accéléré. Donc, bon an, mal an. Alors, la mise en place d'un bassin d'eau dans un monument historique, pas de problème. Vous allez chez le roi Merlin. Vous faites attention à tous les collages de papier. Et puis, vous vous dites que comme le sol date des années 1950 et que vous avez très envie d'avoir un bon chauffage par le sol, s'il y a un pépin, c'est pas grave, ce sera le prétexte à faire de nouveaux travaux. Vous voyez à droite le sas. La mise en eau du bassin. Il y avait une belle musique sur ce film. C'est vraiment dommage. À la place, je vous parle. Voilà, donc l'effet, vous voyez globalement l'effet très, très théâtralisé. Ici, Ernest, Pignon Ernest. Ça n'était normalement pas la fin, mais ça va être la fin, c'est pas grave. En termes de médiation, donc comme je vous l'ai dit, là aussi, hein, alors budget, je passe rapidement, on est à peu près sur les mêmes budgets que pour Alechinski, c'est-à-dire bonhomme à l'an, entre 30 et 40 000, une communication, alors on ne sait pas bien pourquoi, ça c'est les mystères de la communication. Lors de la première matinée, il a été clairement dit qu'il fallait effectivement imposer certaines choses aux directions de la communication. C'est toujours difficile, mais toujours nécessaire. Et là, ils ont mis à peu près le double de budget sur Extase par rapport à Alechinski. On va savoir pourquoi. Très bien, peut-être. Donc, on était sur une communication à peu près à 40 000 euros. Donc, le même coût, voire un peu plus que l'exposition elle-même. En termes de médiation... nous avons donc toujours quelqu'un à l'entrée, essentiellement pour expliquer au public, puisque vous êtes dans une maison d'écrivain, un monument historique, un prieuré roman, où vous ne vous attendez pas à voir ce type d'œuvre. Donc il faut une médiation, et moi je crois beaucoup à la médiation humaine. Donc un humain, c'est quand même vachement bien, parce que ça parle aux gens, ça situe à peu près les gens. Quand c'est quelqu'un d'un peu aguerri, il voit à qui il a affaire, même si ce n'est pas une science exacte. On ne s'adresse pas pareil à une famille qu'à un scientifique, qu'à un amoureux d'Ernest Pignon-Ernest. Nous distribuons gratuitement ce petit livret que vous avez dû avoir entre les mains, puisque dans l'exposition, il n'y a pas un seul texte. Il n'y a rien du tout d'écrit, ni sur les murs, ni où que ce soit. Donc les gens, en plus, sont contents de repartir avec ça. Et vous avez des extraits, d'abord une petite explication sur chacune de ces figures. Je vous parle pas de l'œuvre elle-même, hein, je suis désolée, je vous parle que de l'exposition. Autour de l'exposition. Une explication de qui sont ces figures féminines, une petite citation de leurs textes qui sont tous assez frappants, effectivement. Et puis une petite explication sur qui est Ernest Pignon Ernest. Et d'autre part, nous avons publié un petit ouvrage d'entretien. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de publications sur Ernest Pignon Ernest que vous connaissez, et des publications de qualité. Donc on n'allait pas se lancer de nouveau dans une biographie d'Ernest. Donc du coup, c'est une forme d'entretien qui est très facile à lire. Et ça, c'est édité par le Conseil Général, qui a ses propres éditions. Donc ça n'est pas une édition de très... Ça vaut ce que ça vaut. C'est lisible. Après, ça n'est pas du coup distribué. Ce qui est évidemment distribué hors le Conseil Général. C'est un handicap, sauf dans quelques librairies locales. Donc, en termes de diffusion, ça n'est pas forcément formidable, mais si vous voulez, c'était quand même histoire d'avoir un accompagnement spécifique à cette exposition-là. Nous faisions des visites guidées plusieurs fois par jour, puisque le médiateur à l'entrée était chargé simplement d'un accompagnement d'accueil des visiteurs, mais pas forcément d'une visite guidée complète, mais il pouvait y avoir des visites guidées constamment. Et cette exposition a pour nous été un énorme succès, puisqu'elle nous a permis tout simplement de doubler notre nombre de visiteurs. Si on compare les chiffres de l'année précédente, on est strictement sur un doublement du nombre de visiteurs à la même période. Il faut dire que l'année précédente, il n'y avait pas d'exposition temporaire à cette période-là. Donc, c'est le doublement, je ne dirais pas qu'il est facile à atteindre, mais enfin, ça s'explique, on va dire. Voilà, j'en ai terminé. Une petite conclusion spirituelle. Une des dernières originalités de cette exposition, c'était de la présence de Marie de l'Incarnation, Marie Guyard, qui est née à Tours. C'était la première fois qu'elle était intégrée dans la présentation de ces grandes mystiques, dans les présentations d'Ernest Pignon Ernest. Donc c'est une Ursuline qui est partie en mission à Québec. Elle est beaucoup plus connue au Québec qu'en France. Elle est morte au Québec d'ailleurs en 1672 et elle vient d'être canonisée il y a 6 jours, donc je tenais à le dire, ça n'est certainement pas un hasard.